Mesdames et Messieurs, bonjour. Je déclare ouverte la deuxième session du groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée, chargé d'élaborer le contenu d'un cadre réglementaire international sans préjuger de la nature de celui-ci, en vue de protéger les droits de l'homme et de garantir le respect du principe de responsabilité pour les violations des atteintes liées aux activités des sociétés militaires, des sociétés de sécurité privée. Aujourd'hui, nous sommes face à un objectif qui pose défi et qui est complexe. Je salue la souplesse dont vous avez fait preuve pour l'organisation de cette session en dépit des circonstances difficiles dues à la COVID-19. Je félicite l'Afrique du Sud d'avoir dirigé depuis son début tout le processus. Ce n'est que la deuxième session du groupe de travail après une décision qui a fait date, prise par le Conseil. Après de nombreuses années de débats, cette décision a affirmé qu'il était nécessaire d'avoir un cadre pour réglementer les activités de ces sociétés. Et ce groupe a été chargé d'élaborer ce cadre réglementaire au niveau international, mais la nature de cet instrument sera décidée à un stade ultérieur. Cet engagement a été réaffirmé lorsque le Conseil a récemment décidé de prolonger de 3 années supplémentaires le mandat de ce groupe. La tâche qui vous a été confiée, c'est l'occasion d'explorer les différentes mesures qui permettent de prévenir les violations des droits de l'homme et atteintes aux droits de l'homme en raison des activités et des violations des sociétés militaires et sociétés de sécurité privée, tout en garantissant l'accès à la justice et à l'indemnisation. Le travail accompli à ce stade est une base solide sur la base de laquelle on peut ancrer le travail à venir. Les discussions ont contribué à mieux comprendre l'ensemble des questions en jeu associées aux activités des sociétés militaires et de sécurité privée. Le moment est venu d'élargir ce travail et de faire fond dessus. Cet après-midi, on entendra un ensemble d'experts dans le domaine qui ont été invités à faire des exposés et qui vont ainsi enrichir l'expérience accumulée par ce groupe sur toute une série de questions au fil des années. Le document de fond est une boussole utile pour guider nos travaux. Toutefois, il est nécessaire de faire fond sur ce document, d'élargir et d'identifier les lacunes. Et c'est à chacun d'entre vous qu'il appartient de contribuer en présentant vos vues, vos perspectives, avec pour objectif ultime de trouver une position sur les aspects de développement du cadre réglementaire. Sur les différents aspects, se reprend l'oratrice, du cadre réglementaire. Le contexte dans lequel ces entreprises œuvrent doit être étudié avec attention. Elles ont joué un rôle très important, en particulier pour toutes les fonctions chargées à la sécurité de l'État. Leurs activités, de plus en plus, ont un impact sur les individus et les communautés, non seulement dans les zones de conflit et touchées par le conflit à travers la planète, mais dans d'autres zones aussi qui, à l'heure actuelle, ne sont pas concernées par les conflits. Si, d'une part, les États et les acteurs non étatiques ont recours à ce type d'entreprise et à leurs activités pour atteindre des objectifs légitimes, qui sont ceux de protéger l'infrastructure publique, ces activités, très souvent, comportent des risques élevés dans des environnements complexes et ont eu pour résultat des atteintes des droits de l'homme et des conduites criminelles. Les activités de ces entreprises et de leur personnel ont des conséquences sur les différents pans de la communauté de différentes façons. Les atteintes commises ont des effets dévastateurs différenciés et parfois différents selon de qui il s'agit. Et c'est particulièrement disproportionné pour les femmes et filles et ce n'est pas remis en cause lorsque les services sont apportés dans des contextes de guerre, de conflit ou post-guerre. Très souvent, elles souffrent de discrimination et de barrières. Elles n'ont pas accès à des voies de recours efficaces lorsqu'il y a atteinte des droits de l'homme dans leur cas perpétrés par ce type d'entreprise. Et donc, j'invite notre groupe à garder à l'esprit cet impact différencié qui n'est pas le même selon qui on est. Les différentes atteintes des droits de l'homme commises par ces entreprises demande que l'on ait accès à la justice et que l'on ait réparation. Ça doit être au cœur du cadre sur lequel se penche ce groupe. Ce cadre doit aussi prendre en compte l'expérience de ceux qui sont le plus touchés par les activités de ces entreprises et sociétés. Les torts causés aux individus par les entreprises de sécurité militaire et privée doivent être, indépendamment de l'endroit ou du niveau auquel elles opèrent, que ce soit national ou transnational, doivent donner à des voies de recours. Il faut prévenir les atteintes aux droits de l'homme et il faut des réparations pour les victimes. Ce sont des aspects clés. S'agissant de l'accès aux voies de recours, je voudrais attirer votre attention sur Le projet de réparation mandaté par le Conseil des droits de l'homme. Les conclusions du projet et les recommandations sont des conclusions très utiles qui permettront d'étayer les conclusions pour les victimes de ce type d'action. Je relève que les discussions de ce groupe ont lieu dans un contexte beaucoup plus large, dans le cadre de ces entreprises, pour encourager davantage de respect des droits de l'homme. Des efforts sont en cours au niveau national, régional et international afin d'adopter des mesures réglementaires qui exigeraient des entreprises qu'elles mènent à bien un devoir de précaution dans le domaine des droits de l'homme. Au niveau international, les travaux en cours menés par le processus intergouvernemental chargé d'élaborer un cadre juridiquement contraignant pour réglementer les activités des entreprises transnationales et autres entreprises est également utile dans ce domaine. Cette tendance qui vise à établir des mesures obligatoires dans le domaine des droits de l'homme et de vérification du respect des droits de l'homme a des conséquences pour les activités des entreprises militaires de sécurité privée. Et il serait sage que ce groupe prenne en compte tous ces faits nouveaux afin d'atteindre une certaine complémentarité. Mais n'oublions pas, ou plutôt conscients du fait que les risques de graves violations des droits de l'homme sont renforcés lorsque ces entreprises œuvrent dans des zones touchées par le conflit, les actions appliquées par les États et le devoir de précaution des entreprises doivent être renforcés en conséquence. Les plans nationaux d'action dans le domaine des entreprises et des droits de l'homme doivent donc accorder une considération particulière au secteur de la sécurité privée, étant donné les risques élevés d'impact dans le domaine des droits de l'homme de ce type de secteur. J'aimerais vous assurer que je comprends parfaitement toute la complexité de ce processus. Voilà pourquoi j'invite toutes les parties prenantes à œuvrer constructivement et à travailler de façon collaborative pendant la prochaine session et à mettre de côté les divergences politiques sur la nature du cadre réglementaire qui va être élaboré. Il est grand temps de mettre l'accent sur les aspirations et l'objectif que nous avons en commun, qui consiste à mettre un terme aux atteintes aux droits de l'homme causées par ces entreprises de sécurité privée et militaire. Je conclus en invitant toutes les parties prenantes à coopérer de façon collaborative pendant la prochaine session avec notre objectif commun à l'esprit qui est de prévenir les abus et les atteintes commises dans le contexte des activités de ces entreprises et à promouvoir la reddition de comptes au niveau de l'entreprise et les voies de recours pour les victimes de ces atteintes. Je vous souhaite plein succès dans vos débats et je me réjouis d'entendre les progrès que vous aurez accomplis d'ici la fin de cette semaine sur l'élaboration d'un cadre réglementaire. Nous sommes prêts à appuyer votre travail au mieux de nos capacités. Je vous souhaite plein succès dans vos travaux. Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs, nous allons à présent passer à l'élection du rapporteur-président conformément au point 2 à l'ordre du jour. Le débat est ouvert. Y a-t-il des nominations aux désignations au poste de rapporteur-président pour ce groupe de travail à cette session? Et je donne la parole au représentant du Cameroun. Vous avez la parole.